Alors, ce matin, pour notre dernière réunion de la série, de la semaine, nous allons nous pencher un peu sur les dons spirituels. Bien sûr, cette étude pourrait durer beaucoup plus, exiger un certain nombre de réunion si on voulait aller au fond des questions, mais nous allons nous contenter maintenant d'un aperçu général sur cette importante question. Alors, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Voilà ce chapitre très important sur les dons spirituels. Il y a d'autres textes, notamment dans les Éphésiens et dans les Romains, mais les citerons simplement tout à l'heure. Remarquons ceci, c'est que dès le début de cet enseignement, l'apôtre nous dit, attention, il y a diversité. Diversité de quoi? De dons, diversité de ministères, diversité d'opérations. Et la diversité permet quelque chose qui est extrêmement important dans l'Église, nous voyons ici que l'Église apparaît comme un corps bien constitué, avec des membres, des organes, donc l'Église est vraiment un corps constitué avec des fonctions, des aptitudes spirituelles diverses. Et ce qui est important, c'est que la diversité sur laquelle le texte appuie permet une complémentarité. À cette notion de complémentarité, elle n'est pas toujours textuellement apparente dans le texte biblique, et pourtant elle y est. Elle y est. La complémentarité, ce ne sont pas des fonctions qui sont indifférentes l'une à l'autre, séparées de l'une de l'autre, au contraire, ce sont des fonctions qui se complètent. Il nous est dit que Dieu opère tout et en tous. Tout. Qu'est-ce que c'est que ce tout? Ce tout, c'est son plan. C'est son plan. Donc Dieu a un plan bien déterminé, bien défini, pour avoir une notion complète du plan de Dieu, il faut prendre en compte toute la Bible. C'est à travers la Bible, vous savez, on peut étudier la Bible avec une dans le la pensée d'une certaine recherche, puis après l'étudier dans la pensée d'une autre recherche. Mais en effet, c'est dans toute la Bible que nous pouvons découvrir vraiment le plan de Dieu. En tout cas, il y a des condensés de ce plan, notamment dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, mais nous n'y allons pas tout de suite, chapitre 4, versets 9 à 16. Là encore, les ministères sont rappelés, et c'est ce passage qui nous montre vraiment le corps dans son accroissement, le but de Dieu, et qui est le sacerdoce universel de l'Église. Tout cela, je le répète, devant être regardé plus en détail dans l'ensemble de la Bible. Et nous avons lu aussi que à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. Les dons ne pouvant pas être autre chose que des moyens nécessaires pour travailler au plan de Dieu, à la construction de l'Église. Les dons, donc, sont des moyens. Nous avons vu que le fruit de l'Esprit, avec également sa diversité d'aspects, le fruit de l'Esprit, c'était là quelque chose que le chrétien, l'enfant de Dieu, porte, quelque chose qui est sur lui, qui émane de lui, très nécessaire, et il y a une différence, vous voyez, entre les dons, qui sont des qualités pas directement opérantes, différence avec les dons qui, eux, sont des facultés spirituelles, uniquement spirituel, pour faire un travail surnaturel, mais les dons sont opérants. Les dons sont opérants, ça ne veut pas dire que le fruit de l'Esprit n'est pas opérant, mais il est opérant d'une façon, je dirais, plutôt statique. Tandis que les dons spirituels, eux, ils entrent dans l'action, un don de guérison, eh bien, ça consiste soit à prier, soit à imposer les mains ou les deux sur un malade, et le malade est guéri, voilà une opération faite. Donc, les dons sont un armement, on pourrait presque dire un équipement, un armement, on est armé, le chrétien va être armé d'aptitude. Vous savez que dans 1 Corinthiens, au début de l'épître aux Corinthiens, chapitre 1, l'apôtre Paul nous rappelle que Dieu n'a pas choisi les choses nobles, les choses en grand honneur dans le monde, mais il a choisi les choses faibles, les choses qui ne sont pas, pour confondre les fortes. Donc, Dieu, quelqu'un disait, Dieu se sert d'un ramassis, un ramassis dont le monde ne veut pas. C'est peut-être un peu excessif, n'est-ce pas ? Mais enfin, mettons que nous soyons ce ramassis, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il se sert donc de gens qui, a priori, ne sont pas qualifiés du tout pour faire ce que Dieu va leur demander. Et il faut que ce soit ainsi, parce que s'ils étaient qualifiés, ils feraient le travail de Dieu par le moyen de leurs aptitudes naturelles. Et ça, Dieu ne peut pas le vouloir. Ce qui est fait par voie naturelle ne peut pas être l'œuvre de Dieu. Ah, vous me direz alors, vaut mieux que je sois bête, sot, ignorant. Non. Si nous avons de l'instruction, je suppose, de la culture et des facultés, une faculté d'intelligence naturelle, bon, eh bien, comme Paul l'expose dans les Philippiens, il faudra mettre tout ça dans les bagages, et puis venir sans ça vers Dieu, qui va, lui, nous armer, nous équiper. Mais si, quelquefois, les choses qui sont dans les bagages, les connaissances acquises, l'intelligence, les aptitudes naturelles, les dons naturels, il y a aussi des dons naturels. Supposons que cela soit utile, alors là, le Saint-Esprit pourra les prendre, mais il les mobilisera. Et il ne les utilisera que sous son contrôle. Sous son contrôle. Quand nous voyons très bien dans l'Église que ceux qui ont fait de grandes et magnifiques études de théologie, par exemple, enfin c'est évident, je ne dis pas de mal, critique personne, mais c'est tellement évident, j'ai encore eu récemment des conversations avec des pasteurs protestants qui sont très gentils, très braves, mais ils sont bloqués du côté de la vraie connaissance, la connaissance spirituelle des Écritures. Et alors, ils vous organisent des belles conférences, des conférences littéraires. J'ai écouté un grand missionnaire protestant, il y a tout juste peut-être 2 ou 3 mois, il y avait une grande rencontre à Nîmes, dans le plus grand temple, Nîmes étant une ville protestante, anciennement protestante surtout. Eh bien, ils allaient l'écouter, il y avait des choses intéressantes, mais malheureusement, n'est-ce pas, ces savants, ces intellectuels, et tout ce qu'on voudra, mais ce n'est pas surnaturel. Donc, les dons vont fournir la base d'une qualification. Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alors, par conséquent, s'il dit ça, il parle de l'amour, une voie par excellence, c'est donc que les dons spirituels sont des voies moins excellentes que l'amour, mais ce sont des voies. Des voies, par conséquent, voies et moyens. Voilà ce que sont les dons. Et les dons, nous venons d'en avoir la démonstration dans notre lecture, régissent l'action de l'Église. Ils régissent l'action de l'Église intérieurement et extérieurement. Les dons et ministères. Dons et ministères régissent l'action de l'Église. L'action de l'Église, c'est pas n'est pas livré à la petite bonne volonté de l'un ou de l'autre, elle doit être accomplie l'action de l'Église doit être accomplie par des gens armés, qualifiés par le moyen des dons de l'Esprit, des dons et ministères. Pour vous montrer qu'ils régissent l'action de l'Église, je vais simplement vous lire deux versets dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, et au verset 18. C'est Paul qui parle de sa propre expérience. « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. » En sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Vous voyez, là c'est un petit condensé. Vous voyez, Paul nous dit que, en somme, Christ a fait par lui, pour amener les païens à l'obéissance de la foi, beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais c'était la parole, les actes qui provenaient de la mise en jeu du ministère de cet apôtre, la puissance des miracles et des prodiges, tout ça venait bien des dons, n'est-ce pas, et la puissance de l'esprit en général. Paul était un apôtre, par conséquent, lui, il était qualifié d'une façon magnifique, comme doit l'être un apôtre. L'apôtre, c'est celui qui a le plus de qualifications pour aller de l'avant et aller dans des régions où l'Église n'est pas encore implantée et travailler à cette implantation. Donc, nous avons dit que les dons et les ministères régissent l'action de l'Église intérieurement et extérieurement. J'ai rappelé hier, il y avait trois choses qui se tiennent. Le fruit de l'Esprit, avec sa diversité à lui, le fruit de l'Esprit, les dons et ministères, l'équipement, la base surnaturelle de l'action, et puis, nous l'avons ici un terme, les opérations ou œuvres. Voilà, trois choses qui se tiennent. L'apôtre nous l'avons vu dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens, il nous fait une démonstration sur le corps. L'Église est un corps. D'abord, cela évoque, bien sûr, la grande unité que doit avoir et conserver l'Église. Et c'est tellement vrai, chers amis, qu'il y a un verset particulier sur lequel on ne peut pas manquer de s'arrêter. C'est le verset 12 du chapitre 12 que nous avons lu. Verset 12, voilà comment il est libellé. Car comme le corps est un, comme le corps. Alors là, Paul est dans une comparaison. Le corps, un corps physique, un corps humain, mettons. C'est pas un corps humain. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, par membre il faut entendre aussi organe, membre ou organe. Quand il parle de l'œil, de l'ouïe, par exemple, sont plutôt des organes que des membres. Alors, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forme qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Mes chers amis, ce qu'on devrait trouver ici, c'est, malgré leur nombre, ils ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de l'Église. Le mot qui devrait venir, c'est le mot Église, c'est le mot logique de cette phrase. Ainsi en est-il de l'Église qui est comparée à un corps ayant plusieurs membres et tous les membres ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de l'Église. Et là l'apôtre dit ainsi en est-il de Christ, c'est-à-dire qu'il accorde cette désignation, Christ à l'Église. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, l'Église, n'est-ce pas, il la voit vraiment, et il la voit parce que il nous transmet ce que l'Esprit lui donne de voir. Il la voit donc, l'Église, comme véritablement le corps de Christ. C'est pas assez de le dire, et il faut vraiment le recevoir, cette notion, le corps de Christ. Et le corps de Christ, si bien que le corps de Christ s'appelle Christ. Appelle Christ. Lui, le Christ, il est la tête de ce corps. Il est la tête. Et nous, nous sommes les membres, et nous ne formons qu'un seul corps. Mais c'est le corps de Christ. C'est remarquable, cela. Alors, dans tout ce passage, nous voyons que la diversité sur laquelle il a été insisté, la diversité donne lieu à un développement explicatif. À partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre, il y a un développement explicatif. Diversité d'opérations, par conséquent, diversité de fonctions. Le mot fonction n'est pas là, mais on le trouve dans Romains 12. Le mot fonction, il n'est employé qu'en Romains 12. Mais seulement, l'idée de fonction y est. Je vous ai déjà dit qu'on peut étudier une idée, une pensée, une analyse de la parole de Dieu sans que le mot important, le mot clé, ne se trouve dans les passages que l'on consulte. Ça arrive. Ici, c'est le cas. Il n'y a pas le mot fonction, et pourtant, c'est ça. Il s'agit de ça. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et nous voyons que ces membres ont chacun une fonction. L'œil en a une. L'ouïe en a une autre. Les pieds en ont une. Et il ne s'agit pas que la tête méprise les pieds, que l'œil méprise les pieds. Dans un corps, en effet, supposez que un jour les yeux s'avisent de mépriser les pieds, qu'arriverait-il? Eh bien, c'est que les yeux verraient toujours le même paysage ou le même cadre, n'est-ce pas? Et c'est grâce aux pieds qu'ils peuvent voir des choses étendues et diverses. Parce que les pieds permettent le déplacement précisément du corps et par conséquent de la vue. Donc il s'agit de fonctions. Diversité d'opérations, des opérations, nous avons dit ça, c'est le plan de Dieu. Éphésiens 4, versets 9 à 16. Ça, c'est là que l'apôtre nous montre, en résumé bien sûr, nous montre ce qu'est le plan de Dieu. Mais le développement du plan de Dieu, pour le connaître, il faut faire appel à toute la Bible. Alors, diversité d'opérations, diversité de fonctions. Une fois accordé, je voudrais tout de suite vous dire cela, une fois accordé, les dons spirituels vont s'exercer, non pas comme d'aucuns le pensent, d'une façon absolument automatique, ils vont s'exercer avec le concours de la volonté. De la volonté. Alors, pour voir cela, nous ne sommes pas loin du chapitre 14 de 1 Corinthiens. Dans ce chapitre, prenons quelques versets. Le verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. N'y a-t-il pas là, n'est-ce pas, certains un certain ordre que la personne est appelée à maintenir, sur lequel elle est appelée à veiller. Voyons le verset 19. « J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » Donc là, il y a un choix de sagesse. Vous voyez, l'apôtre nous dit qu'il pourrait très bien dire 10 000 paroles en langue. Il le pourrait, il en aurait le moyen, mais il y a un choix donc où la foi et la volonté, la sagesse interviennent. Nous avons le verset 28 qui dit « S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Donc, alors là, il y a intervention aussi de la sagesse, de la volonté. Enfin, si on sait qu'il n'y a pas d'interprète dans l'église et qu'on soi-même, on n'a pas eu le don d'interprétation, on n'a pas prié peut-être pour cela, alors, eh bien, alors il faut avoir la sagesse de se taire dans l'église et alors si on a vraiment la poussée de parler en langue, ben on parle à soi-même et à Dieu. Et puis, au verset 30, si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Voilà encore une sagesse. Quelqu'un a une révélation, alors il ne peut pas la contenir, et voici que elle éclate, cette révélation. Bah, celui qui était là, qui parlait peut-être encore, il a la sagesse de s'arrêter. Donc, vous voyez qu'il y a une discipline dans l'exercice des dons. Au verset 32, « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Bon, je n'insiste pas sur cet aspect des choses, mais il fallait tout de même bien le signaler. Autre chose concernant les dons, l'exercice des dons spirituels, certains se sont posés la question de savoir si le Saint-Esprit qui distribue à chacun en particulier les dons spirituels, alors si lorsque le Saint-Esprit avait donné à quelqu'un un don spirituel, si les choses se passaient comme ceci, le Saint-Esprit vient et puis dit, toi, un tel, bon, ça y est, tu as le don spirituel, je te donne, enfin, l'intéressé le verra bien. Voilà le don spirituel. Bon, il donne le don spirituel, puis il s'en va. Et puis il laisse la personne exercer le don spirituel, en somme, toute seule, sans que lui, l'Esprit Saint, soit obligé d'être là. Des gens ont posé la question, est-ce que le don spirituel, autrement dit, peut s'exercer comme ça, on l'a, à la manière, si vous voulez, d'un don naturel, et puis on l'exerce comme ça, sans que le Saint-Esprit soit là. Non ! Non ! Non ! Pas plus qu'on ne peut pas avoir la vie sans la présence du Christ en soi. De même, le don spirituel requiert la présence et l'intervention du Saint-Esprit. La preuve, c'est que chaque fois dans la Bible qu'on voit quelqu'un entrer dans une opération, comme selon le mot que nous avons, faire quelque chose, on dit un tel ou Paul, par exemple, ou Pierre, rempli du Saint-Esprit, fit ceci, fit cela. Justement, le texte biblique souligne qu'à ce moment-là, au moment où il exerce un don ou un ministère, l'intéressé est rempli du Saint-Esprit. Donc, le don spirituel ne s'exerce pas d'une façon détachée du Saint-Esprit, mais au contraire, avec le concours, avec la présence du Saint-Esprit. Ainsi, les capacités de l'homme naturel ne sont pas prises en compte pour le choix de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que ces capacités qui peuvent exister, ces dons naturels, et puis mettons la culture que peut avoir quelqu'un, eh bien, ces capacités de l'homme naturel doivent être soumises au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit s'en servira, mais en les mobilisant, en les contrôlant lui. Si elle s'avère utile par la suite, si ses capacités s'avèrent utiles, elles seront mobilisées, nous le voyons bien chez l'apôtre Paul dans les Philippiens chapitre 3, versets 4 à 9, où cet apôtre nous dit que lui, il avait toutes sortes de titres et de qualités, et il avait fait des études de théologie au pied de Gamaliel, le grand théologien de l'époque, et il était capable, la preuve c'est qu'il s'en est servi de son savoir. Mais il a regardé tout cela comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Tout ce qui pouvait, sur le plan naturel, l'avantager, il regardait cela comme voilà ce qu'il faut faire. Si quelqu'un se dit, ben moi j'ai fait des études, moi je suis capable de ceci, moi c'est cela, et en plus j'ai le don spirituel, alors tout ça mélangé, ça va bien faire quelque chose de transcendant, de magnifique, il se trompe. Il faut qu'il soumette tout au Saint-Esprit. Le don spirituel doit s'exercer, il est surnaturel ce don, il opère quelque chose de surnaturel, et je dis bien, si le Saint-Esprit veut se servir des capacités de l'homme, il les mobilisera lui-même. Donc au-dessus de tout, au premier plan, les dons et les ministères seront les ressources essentielles du témoin de Jésus ou du serviteur de Jésus. Le but des dons et des ministères, donc, est d'apporter une base, une qualification, une base surnaturelle à tout service de Dieu, à toutes les opérations, et les opérations composent, mettent en place le plan de Dieu. Vous savez, nous avons chacun notre part, c'est dit d'ailleurs dans notre texte, nous sommes membres du corps, chacun pour sa part, c'est-à-dire que chacun a sa part des opérations, petites ou grandes, il ne s'agit pas de cela, mais même les petites parts, elles doivent être reconnues et respectées. Il faut que l'œuvre de l'Église soit de nature surnaturelle, dirigée par l'Esprit et accomplie par la puissance de l'Esprit, comme nous venons de le voir dans Romains 15. Alors, nous allons maintenant arriver à l'énumération des dons spirituels. Nous allons en dire quelque chose. Les dons spirituels. D'abord, nous avons dans l'énumération une parole de sagesse suivie d'une parole de connaissance. Ces deux choses-là sont mises en tête. Une parole de sagesse. Alors, on a en général dans l'Église, dans le mouvement de Pentecôte plus particulièrement, on a envisagé de différentes manières la portée de ce don, une parole de sagesse. On a d'abord vu la parole de sagesse comme, par exemple, ce que nous pouvons voir, le mieux c'est de prendre des exemples, dans la Bible. Dans Actes 6, Actes 6, verset 1, il s'agit de l'institution des diacres. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Donc là, une reconnaissance, n'est-ce pas, de la sagesse. Plut à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, je ne continue pas, mais vous voyez là, il y a là une parole de sagesse. Enfin, incontestablement, on peut classer cet événement de cette manière. Dans, mettons, Luc, évangile de Luc, au chapitre 21, et au verset 14, Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car il s'agit de ceux qui vont comparaître devant des tribunaux humains. De ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Alors là, bon, ça n'est pas un événement qui nous est décrit là, mais c'est une promesse qui est faite par le Seigneur, et lorsque cette promesse aura effet, eh bien, il y aura là une parole de sagesse chez ceux qui seront inculpés, qui comparaîtront devant les tribunaux. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront résister. Et nous pouvons dire que le don, en somme, de cette parole de sagesse doit correspondre à ça, pas nécessairement devant les tribunaux, mais il faut qu'il puisse y avoir une proposition, une déclaration, quelque chose, une parole qui soit empreinte de la sagesse pour une circonstance et un moment déterminé. Une circonstance se présente dans l'Église, on ne sait pas au juste ce qu'il faut faire, et c'est la parole de sagesse qui pourra le dire. Nous avons aussi dans Luc chapitre 12, verset 11, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Oh, puisse le Saint-Esprit toujours nous enseigner cela. Bon, je ne vais pas plus loin. Il y a d'autres exemples, par exemple, concernant le Seigneur Jésus lui-même. Seigneur Jésus, je pense à la circonstance dans laquelle les pharisiens lui posent une question délicate, une question piège. Faut-il payer à César le tribut? Alors, montrez-moi un denier, n'est-ce pas? Vous connaissez la réponse. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et puis, alors, ils s'en vont. Ils ne savent plus quoi dire, hein, et leur piège est complètement démonté. Alors voilà, n'est-ce pas, ça ne nous étonne pas de la parole que Jésus est une parole de sagesse, mais enfin, c'en est un exemple. Et puis alors, il y a un grand exemple dans l'Ancien Testament, il faut le mentionner aussi, je ne vais pas le lire, ça nous demanderait trop de temps, tout cela, c'est le fameux jugement de Salomon. Le fameux jugement de Salomon qui est dans le premier livre des rois au chapitre 3. Et alors, là, vous savez ce qui se passe, il y a deux femmes qui se disputent le même enfant. Bon, on va chercher les circonstances, celui de cet enfant est à moi. Et puis l'autre dit, non, il n'est pas à toi, il est à moi, cet enfant, tu me l'as prise dans mon sein pendant que je dormais, etc. Bon, et alors, Salomon, qui est au début de son règne, comment va-t-il agir? Que va-t-il faire? C'est pas ce que vous auriez fait. Vous voyez, il fallait vraiment une direction d'en haut. Hein? Apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. Et en effet, on apporte une épée devant le roi. Et puis que dit-il? coupez l'enfant en deux, donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Coupez l'enfant en deux. Alors, à ce moment-là, que se passe-t-il? La vraie mère parmi les deux, dit non, ne coupez pas l'enfant, donnez-le plutôt à l'autre, donnez-le à l'autre, moi, je me désiste de ma demande, donnez-le à l'autre, mais ne le coupez pas l'enfant. Et le roi de dire, eh bien celle-là, c'est la véritable mère. C'est la véritable mère. La voilà, la véritable mère. Vous voyez, n'est-ce pas, qu'avec son épée, il a pu mettre en évidence la vérité. Et alors, bien sûr, c'est très intéressant à étudier tout ça. L'épée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est une épée à double tranchant. Une épée, c'est fait pour donner la mort. Mais, en proposant la mort, elle donne la vie. Là, elle a proposé la mort de ce petit enfant. Et elle lui a donné la vie. Et elle a fait jaillir la vérité. Elle a fait jaillir l'amour du cœur de la mère. Et l'amour a fait jaillir en même temps la vérité. L'amour, la vérité sont apparus. Si nous avions une sagesse, hein, non seulement nous le don de la parole de sagesse, mais la sagesse, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un don de parole de sagesse, que de même qu'il y a un don de foi, nous ne devions pas, nous tous, avoir la sagesse et la foi. Bon, passons. Une parole de connaissance. Une parole de connaissance, là aussi, on trouve dans les ouvrages, vous savez qu'il y a plusieurs ouvrages sur les dons spirituels, il y en a de Donald G., il y en a d'autres, j'en ai trois ou quatre, dont un livre sur les dons spirituels. Eh bien, généralement, la parole de connaissance, on voit que c'est une parole relative à une volonté divine devant une circonstance particulière, ou une parole qui va révéler, à l'occasion d'une certaine circonstance, d'un certain événement, qui va révéler le fond du cœur de quelqu'un. L'exemple que on a surtout, n'est-ce pas, qu'on peut donner tout de suite, c'est celui d'Ananias et de Saphira, ou plus exactement, l'apôtre Pierre devant ces deux-là. Hein? Alors, là, vous savez ce qui s'est passé, c'est au chapitre 5 des Actes, je ne veux pas relire tout ça. Ananias et Saphira avaient vendu un champ, ils voulaient paraître aussi généreux, aussi fidèles que tous les autres. Alors, ils viennent dire, voilà, nous avons vendu un champ, voilà le prix de ce champ. Oui, mais c'était une partie, ils en avaient mis une autre partie de côté. Et voici que Pierre, qui était là, intervient, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba expirant. Et nous savons qu'après, sa femme vient, elle recommence le système, et elle aussi, elle tombe, et vous savez, si la discipline était restée celle-là dans l'Église, hein? Bon, enfin, c'est une circonstance extrêmement intéressante. Eh bien, Pierre, là, n'est-ce pas, a une parole de connaissance, et souvent ainsi que l'on considère le don de la parole de connaissance. On peut voir aussi que c'est une parole permettant d'éclairer la connaissance de la pensée divine sur un sujet particulier. Et puis enfin, lui, Donald G., il était très partisan de considérer aussi la parole de connaissance comme un don d'enseignement au sein de l'Église. la connaissance étant la prise de connaissance de la révélation. Le don d'enseignement au sein de l'Église, parce que, dit-il, il s'agit là d'une tâche tellement importante, la tâche importante de l'enseignement dans l'Église a besoin, disait Donald G., d'être lié à une manifestation du Saint-Esprit. Et on pourrait en donner un exemple, que en effet, il faut bien le Saint-Esprit pour enseigner. Dans Colossiens, chapitre 1, versets 28 et 29, Paul dit « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme. » Donc, vous voyez, Paul instruisait « instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, c'est-à-dire devenu complet, ayant atteint la stature de Christ. C'est à quoi je travaille, vous voyez, à cet enseignement, à cette préparation, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi, avec sa force, la force du Saint-Esprit qui agit puissamment en moi. Voilà. Alors, quant à la parole de connaissance, eh bien, laissons la porte ouverte aux différentes interprétations qu'il peut y avoir. Elles ont toutes quelque chose de vrai. Et la parole de connaissance peut être en effet cette parole qui sera dite en un moment, comme celle de Pierre à Ananias, par exemple, ou peut-être aussi une parole permettant d'éclairer l'écriture. Après la parole de connaissance, nous avons la foi. La foi, le don de la foi. Bon, il y a la foi, bien sûr, que tout chrétien ne peut pas manquer de posséder et de désirer et de voir grandir en lui. N'oublions pas cette parole qui est reprise du prophète Habacuc par Paul et puis par dans les Hébreux. Mon juste ou le juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Vivra par la foi. Donc la foi, vous voyez, tout le monde doit l'avoir. Et cependant, il y a un don spirituel de foi. Alors ce don spirituel de foi va permettre d'accomplir des actes d'une portée exceptionnelle. C'est bien, n'est-ce pas, quelqu'un qui aura a eu la foi pour être sauvé, il a la foi pour grandir dans l'Église, mais en plus il reçoit le don de foi et cela va lui permettre d'accomplir des actes, des opérations tout à fait exceptionnelles. On peut citer, par exemple, évidemment, dans l'Ancien Testament, Élie au Carmel. Alors, il fallait, certes, qu'il ait la foi pour, vous savez, dire ce qu'il a dit et attendre le feu du ciel, au point que il va faire arroser son autel et la victime qui est sur l'autel, il va la faire arroser abondamment, tellement il est certain que le feu d'en haut va descendre et consumer tout cela. Pensons aussi, on peut penser à ça concernant le don de foi, à Matthieu 17, 19, 21. Vous savez, je ne vous dirai pas tout sur ces dons spirituels, il y a bien d'autres choses à dire. Comme on le dit souvent, je ne fais pas une étude exhaustive, c'est-à-dire complète, absolument complète. Nous méditons simplement sur cette grande question. Matthieu 17, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre incrédulité, » leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là !» et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Vous savez, rien ne vous serait impossible. Mais c'est, rien n'est impossible à Dieu. Ah oui, mais vous iriez, même avec la foi, avec le don de foi, disons, n'est-ce pas, vous iriez jusqu'à faire des choses impossibles. Vous savez, dire à cette montagne, c'est-à-dire à une grosse difficulté, à un empêchement, à quelque chose qu'on ne sait pas résoudre, qu'on ne peut pas résoudre raisonnablement, on n'a pas en tant qu'homme les moyens de résoudre, bien, et pourtant il faut bien une solution intervienne, avoir la foi, et puis prier avec la foi, pouvoir prier, parce que si on prie d'une façon dubitative, « Seigneur, s'il te plaît, si c'est ta volonté de faire ceci, cela », ça, ce n'est pas de la prière de la foi. La prière de la foi, il faut vraiment avoir en soi, comme Jésus l'a dit, si vous étiez certain que la chose que vous demandez, vous l'avez obtenue, n'est-ce pas, vous la verrez venir, vous la verrez arriver. Alors, dire... « Seigneur, voilà ce que nous te demandons, nous te prions. » Faut prier, bien sûr, mais avec l'assurance que l'on demande quelque chose qui va sûrement se produire. Le don de foi. Puis, après ça, nous avons le don des guérisons. Ne regardons pas surtout ce don des guérisons comme un pouvoir illimité de guérir tous les malades. Il est vrai que Jésus, il nous est dit à certains moments dans les évangiles qu'on lui amenait beaucoup de malades et il guérissait tous les malades. Oui, mais à Nazareth, Jésus n'a pas guéri tous les malades. Moi, je suis persuadé que le Seigneur Jésus n'a pas tenté de guérir tous les malades. Il n'a pas, par exemple, imposé les mains à des gens qui n'ont pas été guéris. Nous, ça nous arrive. Mais ça n'est certainement pas arrivé au Seigneur. Seulement, il savait ce qui était dans le cœur de chacun et il s'étonnait de leur incrédulité à Nazareth. S'étonnait. Alors, il nous est dit dans l'évangile de Marc, il guérit seulement quelques personnes. Quelques personnes. En général, le Seigneur guérissait tous les malades. Mais nous ne considérons pas que le don de guérison va nous permettre de guérir tous les malades, quels qu'ils soient. Son utilisation est en rapport avec la proclamation de l'Évangile, avec tout ce que nous pouvons apprendre de l'Évangile, et par conséquent, il faut l'utiliser sous la direction de Dieu. J'ai personnellement eu le bonheur de traverser un temps de réveil, ça n'a pas été un réveil, c'est étendu très loin, géographiquement bien loin, pas du tout, mais enfin, nous avons eu un temps de réveil en Algérie. Et chose magnifique, Là, c'est vraiment extraordinaire, c'est que lorsque on priait pour un malade, on était certain que ce malade était guéri. Comme c'était magnifique, ça. Absolument certain. Si bien même qu'on avait la prophétie, je me rappelle, être venu un soir dans une maison assez tardivement, 9h, 9h30, quelque chose comme ça, parce qu'on m'avait appelé. Et puis, il y avait une jeune femme qui était dans sa chambre, couchée dans un lit avec une grosse fièvre. Et il y avait une faiseuse d'ange qui était passée là, c'est-à-dire un avortement. On lui avait fait un avortement à ce moment-là. Vous savez que c'était pas permis, n'est-ce pas? Bref, j'ai... parler à cette jeune femme dans sa chambre, de lui imposer les mains. Et puis en sortant, quand j'étais là, enfin, d'autres personnes étaient venues. Ah, c'est magnifique, dans un temps de réveil, vous n'avez pas besoin de prier les gens, ils viennent tout seuls. Et alors, ils étaient venus, la sœur qui m'avait appelé, je ne sais pas ce qu'elle avait fait, comment, mais je trouve dans la salle de séjour toutes sortes de personnes debout, comme ça. Je dis à la sœur, mais quelles sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles veulent? Alors, elle me dit, ils ont appris, ils savent que vous êtes là et ils ont tout un problème. Bon. Alors, je leur ai annoncé l'évangile pendant 10 minutes. Ça, c'est toujours la chose première à faire. Hein. Moi, j'ai jamais consenti à imposer les mains sans parler de l'évangile. Alors, donc, l'évangile pendant 10 minutes. Et puis, après, je suis passé de l'une à l'autre. Enfin, c'était surtout des femmes, passé de l'une à l'autre. J'arrive à une jeune femme qui pleurait. Et alors, je lui demande pourquoi elle pleurait comme cela. Alors elle me dit, ben voilà, je suis bacillaire, mais ce n'est pas pour ça que je pleure. C'est parce que on m'a pris mes 3 enfants. Je suis bacillaire et on n'a pas voulu me laisser mes 3 enfants. On m'a pris mes 3 enfants. Et alors je souffre. Bon. Alors, bon, je lui parle de sa guérison à elle, n'est-ce pas? Et puis, je lui impose les mains. Et aussitôt après, la prophétie me vient, et je lui dis, la semaine prochaine, vos 3 enfants vous seront rendus. Bon, c'est bien, j'ai pas pris ça de moi-même, hein, sous mon bonnet. Et puis, la semaine d'après, la sœur qui était dans ce quartier me téléphone, et puis me dit, vous savez, la jeune femme, elle a repassé des examens, elle n'est plus bacillaire, on lui rend ses 3 enfants. Voilà. Donc le don des guérisons, c'est pour en revenir à ça, doit être exercé toujours sous la direction du Saint-Esprit. Hein? Il ne faut pas que nous en fassions quelque chose d'humain, soumis à la volonté humaine, c'est ce que je veux dire. Nous voyons là aussi qu'il y a tout de même une possibilité de donner la guérison par le Saint-Esprit à pas mal de gens, à tous ceux qui prêchent l'Évangile. Selon Marc, en effet, 16-18, l'imposition des mains aux malades donne lieu à des guérisons. Mais il y a tout de même un don des guérisons. Et je crois que celui qui a le plus besoin de ce don des guérisons, c'est l'évangéliste. L'évangéliste, quelle arme pour l'évangéliste d'avoir cela, hein, le don des guérisons. Ensuite, il y a le don d'opérer des miracles. Quels exemples avons-nous de miracles? Nous avons par exemple Pierre, qui ressuscite Dorcas dans Acte 9. Pierre ressuscite Dorcas. Ça, c'est un miracle. Mais je parle des miracles autres que les guérisons. Et nous n'en avons pas beaucoup. Nous avons aussi dans Acte 20, 10, l'apôtre Paul qui ramène Eutychus à la vie, lequel Eutychus était tombé du 3e étage. Troisième étage, parce que l'apôtre Paul, eh bien, il n'était pas toujours sobre dans ses paroles et dans ses réunions, il parlait toute la nuit. Et alors Eutychus s'était assis sur le bord de la fenêtre et puis s'était endormi. Pourtant, ça devait être très intéressant d'écouter l'apôtre Paul. Mais enfin, il était fatigué, il s'est endormi, il est tombé, Paul est descendu et il a constaté que son âme était encore en lui, mais il était mort quand même, et il l'a ressuscité. Il nous est parlé aussi de miracles extraordinaires qui étaient faits par les mains de Paul dans les Actes au chapitre 19 et verset 11. Chapitre 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. N'essayez pas de recommencer ça. Paul a eu une direction pour faire ainsi, et puis il avait enseigné la parole de Dieu, et qui s'était d'ailleurs répandue dans toute l'Asie mineure. Voilà. Mais les miracles étaient surtout des maladies ou des délivrances, même opérées au loin. Nous avons le don de prophétie. Je vais un peu vite parce que le temps nous presse. Le don de prophétie. Le don de prophétie. La prophétie, qu'est-ce que c'est ? C'est une parole divinement inspirée. On pourrait voir le livre des Nombres, le livre des Nombres, au chapitre 24 et au verset 15. J'allais dire que je prends mes exemples d'une façon assez bizarre, parce que là, il s'agit d'un certain personnage qui s'appelle Balaam. Et nous n'avons pas, évidemment, une très bonne opinion de ce personnage. Mais pourtant, Dieu lui a donné un moment de prophétiser. N'oublions pas qu'il est mort transpercé par l'épée. Et alors là, Balaam, au verset 15, chapitre 24 des Nombres, verset 15, dit ceci, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. » C'est pas mal comme définition de la prophétie, du don de prophétie. C'est cela. Donc, c'est un don entièrement surnaturel et ce n'est pas, comme d'aucuns le disent, simplement la prédication. La prédication utilise la prophétie à certains moments. À certains moments. À la prédication, dans la prédication, entre. Quelquefois, il faut même souhaiter le plus souvent, des paroles de prophétie. Mais enfin, ne confondons pas les deux. Le don de prophétie, il y a même alors le ministère de prophète. Il y a le ministère de prophète qui n'est pas aujourd'hui très répandu. C'est un ministère, évidemment, qui s'exerce sous la direction et la puissance du Saint-Esprit, essentiellement pour exhorter d'une façon exactement correspondante aux choses qui sont à dénoncer, à voir ou auxquelles il faut remédier dans l'Église. Le prophète, par exemple, dans une église, enfin, celui qui a un ministère de prophète, vient, il n'a pas besoin qu'on lui dise « Oh, dans l'église, pas ceci, pas cela, il y a différents malheurs, il y a différents courants. » Bon, il n'a pas besoin qu'on lui dise, n'est-ce pas ? Il va être renseigné par l'Esprit, et dans sa prédication, il va tomber juste sur les mots auxquels il faut remédier. Et ce sera bien meilleur que si il l'avait fait d'une façon consciente. Donc, le don de prophétie, il s'exerce dans l'Église essentiellement, et c'est une révélation immédiate et circonstanciée. Est-ce qu'on peut en dire une révélation immédiate et circonstanciée. Après le don de prophétie, nous avons celui de discernement des esprits. Discernement des esprits. Et non pas, comme je l'ai quelquefois entendu dire, ou prétendre par certains, le don de discerner les arrière-pensées des gens. Ça n'est pas ça, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'avoir l'intuition et puis dire, moi on ne me la fait pas, celui-là je vois bien ce qu'il a derrière la tête, n'est-ce pas? Bien ce qu'il boue dans sa marmite, c'est ça, alors il parle de ça, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça, le don de discernement des esprits. C'est un don surnaturel, spirituel, qui permet de savoir quel est l'esprit qui est à l'origine d'une parole, d'un acte, d'une manifestation, d'une attitude. Nous avons comme exemple dans les Actes, au chapitre 8, le verset 23, au chapitre 8, le verset 23. Alors là, c'est Pierre qui est en présence de Simon, le magicien. Et alors, verset 23, Pierre dit, « Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Oui, et puis au-dessus, « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. » Voilà là, n'est-ce pas, Pierre discerne bien que l'ennemi a rempli le cœur de Simon qui vient d'être baptisé. Notez qu'une chose, c'est que Pierre ne dit pas à Simon, je vais te délivrer, tu as un démon, je vais te délivrer. Parce que je dis ça, n'est-ce pas, face à nos démonologues d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qui voient que tout est démon, n'est-ce pas, et alors il chasse les démons chez les chrétiens, tout ça. Il ne dit pas ça, Pierre, au contraire, il lui dit, prie le Seigneur. Et même quand Simon, après, va lui dire, priez aussi pour moi, mais Pierre ne va pas obtempérer là, n'est-ce pas, il dit à Simon, prie le Seigneur. Il vient d'être baptisé, il est passé par une conversion seulement, voilà. C'est que il a laissé son cœur encore ouvert à une mauvaise influence. Bon, alors, discernement des esprits, Paul également à Philippe exerce ce don de discernement des esprits. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Mais à ce moment-là, Paul ne savait pas qui était cette femme et si elle avait un esprit de Python. Ça, c'est la relation des Actes qui nous le dit après. C'est Luc qui nous le dit. Alors, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Mais ça occasionne quelques difficultés à l'apôtre. Bon, et là, n'est-ce pas, il s'agit d'une personne qui n'est pas chrétienne, par conséquent, Paul discerne qu'elle est conduite, dirigée, qu'elle est sous la gouverne d'un mauvais esprit qu'il chasse. Discernement des esprits. Vous savez, ce discernement a des applications beaucoup plus étendues que je ne puis vous dire maintenant. On peut dire que pour ce don, la vraie source de toute manifestation spirituelle est dévoilée. Faut-il accepter une parole? Faut-il accepter tel acte? Faut-il le rejeter? C'est le discernement des esprits qui nous le montrera. Et combien ce discernement est nécessaire. Et ensuite, il y a la diversité des langues. La diversité des langues, le parler en langue. Se parler en langue consiste à exprimer une pensée au moyen d'une langue inconnue, jamais apprise, sous l'inspiration de l'esprit. Et cela peut se faire même en dehors des réunions de l'Église, nous l'avons vu. J'étais une année, au moment de la semaine de prière, en début d'année, j'avais été chargé de faire le message et de conduire la réunion dans le temple protestant à Alger. Et j'avais avec moi des personnes de mon groupe qui étaient venues. Et alors, là, dans le cours, le pasteur m'avait averti, parce qu'il savait très bien que nous, il y avait des dons de prophétie, des parler en langue, etc. Et puis, il était venu me voir dans la journée. Vous savez, monsieur, je voudrais bien qu'il n'y ait point ces choses-là, vous savez, ça n'a pas sa place, là. J'ai dit, écoutez, monsieur, vous m'avez chargé de faire ça, reprenez-le si vous voulez. Moi, ça m'est égal, confiez-le à un autre. Mais moi, je ne peux pas empêcher, j'aurai des gens, n'est-ce pas, de mon groupe. Et s'ils parlent en langue, et s'ils prophétisent, je ne peux pas les en empêcher, moi. Et alors, je disais même, et puis tant mieux, monsieur le pasteur, tant mieux. Et alors, il me dit, non, gardez, vous avez été désigné par le comité, non, gardez. Bon. Alors, je garde, je fais mon petit speech, et puis alors après, il y a un moment de prière, et voici que pendant la prière, là, il y a une sœur chez nous qui se met à parler en langue. Et alors, aussitôt, il y a quelqu'un qui avait ouvert les ailes de la foi, qui se met à chanter quelque chose, pour empêcher qu'il y ait une interprétation. Bon, il n'y a pas eu d'interprétation, la réunion s'est terminée, le temple, c'était un temple très nouveau, très très neuf, et il y avait un grand hall d'entrée. Alors, dans le hall d'entrée, tout le monde se rassemble, se retrouve, et on parlait un peu de l'événement qui s'était produit, et le pasteur vient à moi, et puis me dit, « Connaissez-vous cette dame ?» Je lui dis, « Ben oui, c'est de mon groupe. Vous voulez me la présenter ?» Très bien, alors j'appelle Madame Masse, elle s'appelait Madame Masse. Je l'appelle, et puis je la présente au pasteur. Le pasteur lui dit, « Madame, voyons, vous avez appris le grec ?» Elle dit, « Monsieur le pasteur, vous savez, moi, j'ai même pas mon certificat d'études. » Alors, ne me demandez pas des choses comme celles-là, je n'ai rien appris, je ne sais pas. Eh bien, madame, vous savez, j'ai fait des études de grec poussées. Et je puis vous dire, vous avez parlé en grec. Vous avez parlé le grec. Ah, alors elle dit, qu'est-ce que j'ai dit, monsieur? Il dit, on n'a pas interprété, parce qu'il y a quelqu'un qui a chanté, puis après les autres... On priait fort, etc. Alors, il lui a dit, pas absolument tout, mais il lui a dit, voilà, vous avez rendu honneur à la vérité et déclaré que la vérité, il fallait la recevoir. C'est justement ce que ce pasteur ne voulait pas faire. Alors, il faut la recevoir, cette vérité, elle est à la clé de tout, elle a franchi, elle délivre, etc. Enfin, il lui sort une partie de son message en langue. Alors moi, quand j'ai vu ça, tout si c'était la rassemblée, le major de l'armée du salut, des autres pasteurs que je connaissais, j'ai dit, messieurs, est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit monsieur le pasteur concernant ce que cette sœur a dit au cours de la réunion? Avez-vous entendu? Elle a parlé le grec et monsieur le pasteur a compris. Alors, messieurs, peut-on dire que le don des langues n'existe plus? Comme en général, vous le pensez malheureusement? Enfin, je les ai secoués tout. Donc, vous voyez que le don peut intervenir quelquefois en dehors de l'Église et toujours pour l'édification. Nous étions tout de même dans l'Église, si vous voulez, puisqu'il y avait, les protestants et il y en avait d'autres aussi. Bon, alors, le don des langues, ça, je ne veux pas vous en parler longuement. Ce don, en somme... à différentes efficiences, et il a notamment comme efficience celle de permettre la communion avec Dieu dans la louange, pour aller plus haut, plus loin dans la communion avec Dieu, dans la louange. Alors là, il faut quitter la langue que l'on exerce avec son intelligence et parler en esprit. Voilà donc une application du don. Et puis l'apôtre Paul nous dit qu'il est un signe pour les non-croyants dans 1 Corinthiens 14:22. Mais nous n'avons pas le temps de creuser toutes ces choses maintenant. Après, il y a le don d'interprétation des langues. Alors, don d'interprétation, je me reporte à 1 Corinthiens 14:5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Donc, voyez que l'interprétation des langues est chose nécessaire, puisque tout ça, c'est la note dominante de, on peut dire, de tout ce passage, mais principalement du chapitre 14, la note dominante, c'est que tout soit fait pour l'édification de l'Église, c'est-à-dire la construction de l'Église, dans le sens de Éphésiens 4:9-16. Chapitre 4 des Éphésiens, où nous voyons que l'Église doit s'édifier, chacun recevant sa part du Christ, il reçoit tout ce que l'Esprit de Christ lui donne pour l'édification, et dans cette diversité qui, je le disais au commencement, permet une complémentarité. On sent que la complémentarité des opérations, des actions, de l'exercice des dons, des ministères, cette complémentarité est merveilleuse, c'est elle qui permet de faire un solide assemblage, comme dit l'apôtre Paul, pour que l'Église se construise dans l'amour. Et puis, alors, nous avons aussi, dans le verset 28 du chapitre 12, nous avons des dons de guérir, qui est rappelé ici, les dons de guérir, de secourir, de gouverner. Ces dons-là, donc, nous ne les avions pas dans la première énumération, de secourir et de gouverner. Bon, secourir, ça prend diverses formes, mais tout cela donne naissance à des fonctions dans l'Église. Et je pense qu'il faudrait que nous terminions par cela, les fonctions dans l'Église. Je vais relire Romains chapitre 12, chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc, nous formons un seul corps, et tous les membres n'ont pas la même fonction. Cela permet donc le don de gouverner, des fonctions différentes qui sont complémentaires aussi des autres fonctions obtenues des autres dons. Elles sont complémentaires, tout est complémentaire dans l'œuvre de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre, tout est organisé, il y a un plan, ça ne se fait pas au hasard. Et nous, souvent, qui avons, nous pensons que les actions dans l'Église sont un peu échevelées, ça se fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ça se fait à un moment, à un autre, etc. Mais tout, au contraire, doit être coordonné. Dieu veut coordonner toutes les opérations de son plan. Il s'adonne Dieu donc à des fonctions extrêmement utiles. Dans l'Église, chacun doit avoir sa fonction. L'idéal, c'est que chacun puisse avoir sa fonction, même si elle est petite, même si elle est modeste. Un jour, à Alger, j'ai montré à quelqu'un que balayer la salle, c'était une fonction. Et, chose extraordinaire, le jour où moi je suis venu, avec ma voiture, bon, j'ai tombé la veste et puis la salle n'avait pas été balayée. J'ai ouvert les portes sur la rue et j'ai balayé. Et alors sont passés des gens devant la porte, ils ont regardé ce qu'il y avait là-dedans. Hein. Bon, et je me suis avancé, je leur ai dit bonjour. Et alors ils m'ont dit qu'est-ce que c'est ici? Ben, j'ai dit c'est une église évangélique. Et alors, je leur ai parlé de l'Évangile. Et après, j'ai pu dire à quelqu'un, je dis, voyez-vous, en maniant le balai, on peut évangéliser aussi, justement, en maniant le balai. Hein. Alors, toutes les fonctions, tout doit donner lieu à des fonctions. Les diacres ont commencé par d'humbles fonctions, puis ils ont fini comme évangélistes. Hein. Voilà. Eh bien, tout doit être fait pour l'édification de l'Église. Moi, j'aime beaucoup ce texte d'Éphésiens 4, 9 à 16. Tout pour la construction de l'Église. Chacun doit avoir sa fonction, et les fonctions ont pour base surnaturelle les dons et les ministères. Que le Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, c'est par ta grâce, c'est par la puissance de ton esprit que toutes choses peuvent se mettre en place et s'accomplir. Nous savons, Seigneur, que tu as un dessein précis pour l'Église, que tu as même un dessein pour chacun de ses membres et que tu désires que ta volonté soit faite en tout lieu, toutes circonstances, afin que véritablement l'œuvre progresse afin que l'Église grandisse. Permets-nous, Seigneur, de penser à ces choses avec sagesse, avec prière, avec humilité, de manière à ce que, Seigneur, ta volonté soit faite en toutes choses et pour la gloire de ton nom et du nom de Jésus. Amen.